La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toutes et tous, soyez les bienvenus pour ce dimanche matin qui est le deuxième dimanche de nos cultes qui sont un petit peu spéciaux puisque ce sont des cultes conférences. Et donc nous aurons un petit bout de liturgie un petit peu raccourci, je dirais, et puis nous laisserons la parole évidemment aux conférenciers d'aujourd'hui. Mais soyez toutes et tous les bienvenus pour être là réunis autour de notre Seigneur, autour de Dieu le Père, qui nous appelle les uns et les autres pour vivre de sa parole et de sa présence. Je ne connais pas l'origine de tout le monde, mais je voudrais que tout le monde puisse se sentir ici, véritablement chez lui, et en particulier Pauline Beb, que j'accueille tout particulièrement, qui prendra la parole tout à l'heure, et qui est rabbin à la synagogue de la rue Moufle. C'est ça ? Voilà. Alors peut-être que vous êtes accompagné, s'il y a parmi vous dans l'assemblée quelques amis qui sont juifs, eh bien vous êtes vraiment accueillis à 100% vraiment chez vous. Et les autres aussi, évidemment, quelle que soit votre appartenance, que vous soyez agnostique, athée, catholique ou protestant, il y a une place pour chacun dans cette maison et surtout sous le regard de Dieu. J'espère que vous avez toutes et tous les deux registres de chants, le bleu pour les chants spontanés, donc vous pouvez aller à la page 2, et le marron pour les chants commandés. Et donc je vous invite à invoquer le Seigneur notre Dieu par le chant du livret bleu. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? Tu en as presque fait un dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre. Et je vous invite à prolonger la lecture de ce psaume 8 par le chant du psaume 95 en entier. 95.
Amen. asseoir.
Père, tu nous as appelés par notre nom les uns et les autres, des jeunes et des moins jeunes, et nous sommes réunis autour de toi pour te rendre grâce, pour chanter tes louanges, mais surtout pour vivre de ta parole et de ta présence. Père, nous sommes devant toi avec nos vies, les jours passés, nos projets pour l'avenir. Il y a dans tout cela des moments heureux, des moments de joie et de rencontres, des projets pleins d'espérance. Il y a aussi beaucoup de détresse, beaucoup de zones d'ombre, de choses cachées, voire honteuses. Et nous te remettons tout cela, Père, parce que toi seul es capable de nous accueillir tels que nous sommes, afin que nous puissions être là devant toi, en pleine lumière. Nous te remettons nos vies parce que toi seul es capable de nous accueillir et de nous réparer lorsque nous sommes brisés, d'alléger le poids d'une souffrance, d'une fatigue trop lourde à porter, de culpabilité qui écrase. Nous te remettons tout cela, Seigneur, en pleine confiance. Père, nous pourrions chanter avec le psaume 22, tu m'as répondu. Dans le secret de nos cœurs, il y a toujours une place pour ta parole. Sur nos routes, il y a toujours ta lumière qui nous guide. Oui, nous pouvons repartir dans la joie de ta présence, dans l'assurance de ta grâce, la certitude de ton amour. Merci, Seigneur, de nous accueillir tels que nous sommes, d'être pour nous vraiment notre Père. Merci, Seigneur, pour ces moments de grâce, de face à face avec toi, ces moments d'espérance et de joie. Amen. Être guidé par Dieu, c'est entendre sa parole, en vivre et la partager. Et je vous invite à partager aujourd'hui le livre de Deutéronome, la lecture du chapitre 18, les versets 9 à 22. Ça fait partie d'une des lectures qui nous était recommandée à ce jour. Quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations-là. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination ou consulter les morts, car tout homme qui fait cela est une abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Tu seras entièrement attaché au Seigneur ton Dieu. Ces nations que tu déposséderas écoutent ceux qui pratiquent l'incantation et consultent les oracles. Mais pour toi, il n'en sera pas de même ainsi que l'a établi le Seigneur ton Dieu. C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez, C'est bien là ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu à l'Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Je ne veux pas recommencer à entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus regarder ce grand feu, je ne veux pas mourir. » Alors le Seigneur me dit « Ils ont bien fait de dire cela. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui demanderai compte. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. Peut-être te demanderas-tu, comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par le Seigneur ? Si ce que le prophète a dit au nom du Seigneur ne se produit pas, si cela n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par le Seigneur. C'est par présomption que le prophète l'a dite, tu ne dois pas en avoir peur. Seigneur, ta parole est la vérité, une lampe sur notre sentier. Amen. Et je vous invite à prendre le psaume 34, les quatre premières strophes.
Bonjour, je suis très heureuse d'être ce matin parmi vous. Merci au pasteur de m'avoir invitée et merci à vous tous de m'accueillir. Je suis toujours particulièrement émue d'être ici parce que nous avons déjà une histoire de relation entre ma synagogue et votre temple, puisque des offices de grandes fêtes ont eu lieu il y a longtemps ici, lorsque ma communauté a été créée. Je vous remercie aussi pour ces très beaux chants, cet office qui est plein de spiritualité. Alors, le sujet qu'on m'a demandé d'aborder, c'est le sujet de la transmission, et tout particulièrement de la transmission dans le judaïsme. Et l'existence du judaïsme se présente un petit peu comme une énigme, parce que au fond, les Juifs sont un tout petit peuple qui a perduré pendant des millénaires, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré les dominations diverses. Et pourtant, il est toujours là, toujours présent, et souvent présente même un questionnement pour les sociologues. Alors, je voudrais commencer par une petite histoire à propos de la transmission. Ça se passe dans une communauté où le fils d'un rabbin prend la suite de son père. Et la communauté est un peu perturbée parce que le fils du rabbin, le père n'étant plus là, le fils du rabbin commence à faire les choses de manière différente de ce à quoi ils étaient habitués, et ils sont dérangés dans ces habitudes. Alors ils convoquent le jeune rabbin et ils lui disent la phrase suivante, ils lui disent: mais ton père n'aurait jamais fait les choses comme cela. Et le fils réfléchit et il dit: mon père aurait fait exactement de la même manière que moi. L'assemblée est un petit peu perturbée de la communauté et il dit: oui, mon père n'aurait jamais imité personne. Donc cette histoire sur la transmission nous montre que dans un processus de transmission, c'est-à-dire de passage d'un héritage d'une génération à une autre ou d'une personne à une autre, peut-être l'important c'est d'accepter que ce que l'on transmet n'est pas ce que l'on reçoit. Et qu'il y a un décalage qui est exprimé par une image talmudique assez forte, qui est qu'une génération se tient sur les épaules de la génération précédente. Elle n'a pas la même perspective, elle ne voit pas les choses de la même manière, elle voit peut-être plus loin, différemment, sur les épaules parce qu'elle s'appuie sur la sagesse des générations précédentes. Et si on envisage que ce que l'on reçoit n'est pas ce que l'on donne, eh bien, il y a moins de déception dans cette transmission et peut-être une flexibilité plus grande. Ce décalage est exprimé dans la tradition juive et dans l'hébreu en particulier, qui véhicule les idées de la tradition par deux mots différents pour dire la tradition. Il y a le mot massoret et il y a le mot kabbalah que vous connaissez sans doute, puisque on connaît la Kabbale, qui est la partie mystique du judaïsme, mais qui est déjà une autre branche que le judaïsme classique. La Massoret, c'est justement ce que l'on transmet, ce que l'on passe aux générations suivantes. La Kabbala, c'est ce que l'on reçoit d'une racine, vous l'entendez, complètement différente. Et ici, on intègre le principe du mouvement. C'est-à-dire que pour le judaïsme, ce qui reste statique est mort. La vie est dans le mouvement, la vie est dans le changement, et c'est pour cette raison que la tradition juive s'articule autour d'une colonne vertébrale que l'on appelle la halakha, c'est-à-dire qu'on traduit par loi juive, mais qui n'est pas du grec nomos, la loi, mais qui est d'une racine qui veut dire aller, marcher. Donc la loi juive est prévue dans son évolution, dans sa capacité à s'adapter au milieu, au environnement, et c'est peut-être un des secrets de la transmission du judaïsme, c'est sa capacité à s'adapter, c'est les changements qui se sont produits à l'intérieur même de cette tradition de génération en génération, ce qui fait que le judaïsme d'aujourd'hui est différent de celui de l'époque des Lumières, encore différent de celui du Moyen-Âge, différent encore de l'époque talmudique et de l'hébraïsme biblique. Alors je voudrais articuler ma réflexion autour de deux grands thèmes. Qu'est-ce qui a pu contribuer à faire de cette transmission une réussite malgré le petit nombre de ses adhérents, des juifs de par le monde? Deux points importants, me semble-t-il. D'une part, l'étude, et d'autre part, ce qu'on appelle les mitzvot, ou les commandements. L'étude. Il y a une partie du Talmud qui s'appelle la Mishnah, qui a été écrite entre moins 200 à peu près, 200 avant notre ère, et 200 ou 400 après notre ère. Premier commentaire de la Bible, une partie de la Mishnah qui dit « Voici des commandements qui sont très importants, et parmi ceux-là, il y a le respect des parents, il y a des actes de générosité, il y a l'hospitalité, il y a le fait de rendre visite aux malades, il y a le fait d'accompagner les fiancés sous le dénuptial, il y a aussi le fait d'être là au moment difficile de la vie des gens, lorsque par exemple il y a un décès dans une famille. Il y a la prière, il y a le fait aussi de résoudre les conflits entre les personnes. Tous ces commandements sont extrêmement importants. Et pourtant il y en a un qui le dépasse, et c'est Talmud Torah, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est importante. Pourquoi, nous disent les rabbins? Parce qu'elle conduit à tous les autres commandements. Bien sûr, ils disent aussi que si on a un temps pour prier, étudier ou accomplir de bonnes actions, il faut alors choisir d'accomplir de bonnes actions plutôt que de prier ou plutôt que d'étudier. Mais l'étude va nous faire comprendre l'importance de cette relation à l'autre et de tous les commandements. Dans l'étude, on trouve l'importance de la question. Lorsque ton enfant te demandera, lisons-nous dans le Deutéronome et aussi dans l'Exode, lorsque ton enfant te posera des questions, tu lui raconteras ceci et cela. Et en particulier la sortie d'Égypte. La Pâque juive, Pessah, est un moment central de l'année, mais ce n'est pas le seul moment où l'on raconte la sortie d'Égypte, qui est un événement fondateur pour le peuple juif. Cette sortie d'Égypte, c'est l'apprentissage de la liberté. C'est le fait de dire que, encore et encore, nous devons sortir d'Égypte. L'Égypte n'est pas derrière nous, mais dans le texte de la Haggadah, c'est-à-dire le texte que nous lisons à chaque Pâque juive, eh bien on nous dit « chaque être humain doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte et comme s'il sortait d'Égypte au présent. » Ce n'est pas seulement un passé, mais c'est aussi un présent. Pourquoi? Parce que, justement, l'Égypte, qui est le symbole de l'esclavage, le mot « Mitzrayim » en hébreu, veut dire « étroit », qui est le symbole de l'étroitesse. Eh bien, cette sortie d'Égypte, nous devons la réitérer perpétuellement et continuellement. Nous devons identifier nos esclavages modernes, qui peuvent être les téléphones portables, qui peuvent être la communication à outrance lorsqu'elle on abandonne son sens, qui peuvent être des habitudes qui ne sont pas porteuses de spiritualité ou de sens, mais au contraire nous entraînent vers plus bas, vers un enfermement. Toutes sortes d'enfermements, les préjugés en particulier, eh bien ce sont aussi des esclavages. Ce récit-là, nous dit la tradition juive, ne peut être raconté, le récit d'Égypte, qu'à partir d'une question. Si l'enfant ne pose pas de questions, alors nous ne pouvons pas parler. Si la question n'initie pas le récit, alors il faut se taire. Parce que le discours qui s'affirme comme discours, sans qu'il y ait des questions préalables, eh bien ce discours-là est un discours qui serait trop dogmatique. Le discours doit répondre à un intérêt particulier, celui de l'enfant, celui de la question. Et la question est obligatoire. Et si l'enfant ne pose pas la question, alors l'adulte doit poser la question. Et même lorsqu'il y a deux personnes, tout enseignement se fait dans une forme de dialogue, de réponse dynamique. D'où l'importance d'une des prières centrales du judaïsme qui est le chemin. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas l'important c'est de parler, même si c'est ce que je fais en ce moment, mais ma parole ne veut rien dire, ma parole est silence si elle n'est pas rendue vivante par une écoute qui est en ce moment la vôtre. Cette écoute est fondamentale et elle précède même la parole, car lorsqu'on se bouche les oreilles, eh bien, on ne laisse pas Dieu venir, ou on ne laisse pas aussi la parole de l'autre être présente à soi. La question est donc fondamentale. Et le Talmud, qui est le commentaire de la Bible, est écrit sous forme de dialogue, de questions. Un commentaire, dit Emmanuel Levinas, se chevauche avec un autre commentaire. On dialogue de siècle en siècle. Les maîtres s'interpellent entre collègues. Un rabbin a dit cela, l'autre va le contredire. Un élève a dit cela, un autre va le contredire. Et toutes ces opinions ont été mises par écrit pour que l'on apprenne aussi la diversité. Il n'y a pas une seule manière de penser, il y en a plusieurs. Et c'est la diversité, comme d'ailleurs en biologie, qui fait la vie. Levinas va aussi parler de rythme océanique du Talmud, c'est-à-dire que chaque parole est comme une vague, ou comme une goutte d'eau qui va se joindre à une autre goutte d'eau, et le commentaire n'est jamais fini, on continue encore de commenter, encore et encore, et dans l'avenir on le fera toujours. Cette tradition de commentaire, elle est enseignée bien sûr dans les écoles juives, dans les Talmud et Torah, c'est-à-dire les lieux d'enseignement, et elle est sans interruption. Chaque intervention est indispensable. Sinon, on n'intervient pas soi-même dans le commentaire, si on ne fait que lire le commentaire sans mettre son grain de sel, eh bien, on disparaît dans cet océan. Si on met notre grain de sel, alors la tradition devient notre tradition, puisque nous nous sommes appropriés cette tradition. Et chaque enfant juif doit se l'approprier. Il ne peut pas faire qu'absorber. Il doit lui aussi questionner. Il doit lui aussi participer à ce commentaire ininterrompu. Un petit peu aussi comme un tableau impressionniste où chacun apporterait sa touche de peinture. La touche de l'un est indispensable à celle de l'autre pour créer une harmonie de couleurs. C'est, puisque je parle de couleurs et de tableaux, j'ai évoqué l'importance de la question, le commentaire qui chevauche un autre commentaire, et il y a une troisième dynamique dans cette transmission du judaïsme, toujours dans l'étude, c'est la lecture imagée, le conte. J'ai commencé aujourd'hui par vous raconter une histoire. Eh bien, le conte est très présent à l'intérieur de la tradition juive. Il est porteur d'idées. Tout à l'heure, on parlait de la transmission d'un père à son fils. Dieu n'a pas d'image dans la tradition juive, mais nous employons des images pour véhiculer nos idées. Et dirigeant communautaire, un leader communautaire est aussi appelé un maguide, c'est-à-dire quelqu'un qui sait raconter une histoire. Ces histoires restent, elles sont transmises de génération en génération. Quelquefois, elles s'appellent des midrashs, des midrashim, des paraboles. Elles sont donc très présentes. Encore ce matin, lorsque je quittais ma synagogue, nous sommes voisins, pour diriger un petit office pour les enfants, j'en racontais une autre, très courte, sur cette petite fille qui apprend à lire l'hébreu, à qui son maître dit « Lorsque tu vois deux petites apostrophes, l'une à côté de l'autre, eh bien, il ne faut pas prononcer ces lettres-là. Il faut prononcer Adonai, c'est-à-dire mon Seigneur. Terme pour désigner, si l'on peut dire, Dieu, dont le nom est imprononçable dans le judaïsme. Alors la petite fille lit et elle arrive à deux autres points. Mais ceux-là, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre, mais l'un au-dessus de l'autre. Et elle se dit, au fond, peut-être qu'il faut lire aussi les points l'un au-dessus de l'autre, comme Adonai. Et le maître la reprend en disant non. Là, il s'agit de deux points, du signe de ponctuation, deux points dans la phrase. Et il lui dit, tu vois, lorsque tu vois un point au-dessus d'un autre, Lorsque tu vois que quelqu'un domine une autre personne en la regardant de haut, parfois avec mépris, eh bien le nom de Dieu ne peut pas se trouver là. Mais si tu vois deux petits points l'un à côté de l'autre, alors tu as un regard qui rencontre un autre regard, ils sont équivalents, ils sont égaux en dignité, et là tu trouveras le nom de Dieu. Voilà l'histoire que j'ai racontée ce matin, et ces images sont particulièrement puissantes, puisque ce sont elles qui vont être transmises. Peut-être qu'on en oubliera un moment le sens, mais on va se rappeler de l'aspect très concret de l'histoire, un peu comme une fable. J'en viens maintenant, après l'étude qui est si centrale au judaïsme, à ce qu'on appelle les mitzvot, les commandements. Ces commandements sont très présents dans la tradition juive. J'ai parlé tout à l'heure de la structure de la colonne vertébrale du judaïsme. Sans cette colonne vertébrale, le judaïsme s'effondre. Ce ne sont pas des grands discours philosophiques qui vont répondre aux questionnements véritables. Au contraire, ce sont des gestes qui nous ramènent au concret, qui expriment l'abstrait, des gestes qui s'opposent totalement à une vision platonicienne du monde qui verrait un monde matériel inférieur à un monde spirituel supérieur, monde des idées, monde matériel duquel on doit absolument se détacher, monde spirituel vers lequel on devrait s'élever. Le judaïsme ne dit pas ça. Le judaïsme dit que c'est à l'intérieur du matériel qu'on va trouver le spirituel, que les deux ne sont pas séparés, que nous sommes des êtres de chair et de sang et qu'on va s'inspirer du matériel pour y trouver le spirituel. Alors, quelques exemples. Les cinq sens participent à la découverte de la spiritualité. Le Shabbat, par exemple, jour de repos, comme pour vous le dimanche, eh bien, ce vendredi soir commence avec l'allumage des bougies du Shabbat. Allumage des bougies du Shabbat qui représente la spiritualité, représente la lumière, représente le temps nouveau, la sanctification du temps que nous allons marquer à partir de ce moment-là. C'est un acte. De génération en génération, il a été transmis. Parfois même en temps de persécution pour les juifs maranes, par exemple, qui devaient se cacher en Espagne des persécutions, on a continué à allumer les bougies sans dire de bénédiction, parfois dans un placard, parfois caché du monde, mais ces gestes se sont poursuivis et plus tard des générations ont suivi, et il m'arrive souvent de recevoir des personnes qui me disent « Dans ma famille, on a toujours allumé des fioles le vendredi soir. J'ai compris bien plus tard que peut-être il y avait des origines juives. » Et puis, je disais, tous les sens participent. Alors, bien sûr, la vue, aussi le goût. Le goût par les chalot, les pains natés que l'on fabrique soi-même, que l'on prépare soi-même, que l'on va acheter. Ces pains natés qui vont nous rappeler la manne qui est tombée dans le désert lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, parce qu'il y en a deux, et le jour du Shabbat, il en tombait deux fois plus pour qu'il n'ait pas à venir chercher la manne. Eh bien, ces pains natés qui vont décorer la table du Shabbat vont, par le goût, nous rappeler une idée, une espérance et aussi toujours la sanctification du temps. Le corps est associé à l'âme dans la louange de Dieu. Et les épices sont présentes avec l'odorat. Je ne vais pas faire le tour des cinq sens, mais les épices sont présentes, par exemple, à la fin du Shabbat. On respire des épices qui ont une bonne odeur. Pourquoi on les respire ? Parce que, selon la Genèse, l'être humain avait été créé d'abord à partir de la terre, et puis l'Éternel a insufflé par les narines de Adam un souffle vivant. La tradition juive mystique nous dit que le jour du Shabbat, chaque être humain est doté d'une âme supplémentaire qui lui permet de s'élever spirituellement encore plus que les autres jours. Or, cette âme supplémentaire, elle s'en va elle nous quitte à la fin du Shabbat, le samedi soir. Et il faut se consoler de son départ. C'est là où on va respirer des odeurs douces, puisque l'âme avait été insufflée par les narines, eh bien les narines vont être consolées par ces bonnes odeurs du départ de l'âme, et ces odeurs vont nous accompagner pendant le reste de la semaine, ce temps du Shabbat. On va essayer de s'en rappeler, même pendant les jours de travail, le quotidien de la semaine qui commence le dimanche. Le judaïsme est une philosophie en action. Et encore une fois, chaque idée principale est représentée par un symbole. J'ai parlé des sens, maintenant plus les symboles très concrets d'idées plus spirituelles. La fête de Sukkot, par exemple, qui est la fête des cabanes et que l'on célèbre en général à peu près vers le mois d'octobre, au moment où l'hiver point son nez, où il commence à faire froid. Pendant cette fête des cabanes, on nous ordonne de construire des cabanes. Et c'est un temps très étrange pour construire des cabanes et pour éventuellement dormir sous ces cabanes, si le temps le permet, puisque c'est le début de l'hiver. Et c'est la construction de cette cabane nous rappelle précisément le fait qu'il ne faut pas trop s'appuyer sur les constructions dures, sur le ciment, mais qu'il faut se rappeler que peut-être l'essentiel de la vie n'est pas dans ce que nous croyons durer, mais ce qui est plus éphémère et pourtant peut-être plus solide, comme cette fragile cabane qui représente nos sentiments, qui représente l'amour qu'on peut se donner les uns aux autres, les liens forts de l'amitié, et qui représente aussi la protection divine des enfants d'Israël pendant le désert. Au moment où tout le monde rentre chez soi, où on a envie d'être au chaud, eh bien la tradition juive nous dit: construisez une cabane, pensez que vous avez de la chance d'avoir des murs, peut-être tout le monde n'a pas cette chance, bien sûr, d'avoir un toit. Pensez à ceux qui n'ont même pas les feuillages sur la cabane pour dormir, à tous ceux qui sont dans la rue. Et bien sûr, c'est un acte de générosité d'être tourné vers les autres, d'ouvrir sa cabane et d'inviter des personnes chez soi, comme nous devons le faire chaque jour de cette fête de Sukkot, des cabanes qui durent 7 jours. La soukha est un exemple, la matza aussi, le pain azim que nous mangeons à Pâques. Ce pain azim qui a un goût très particulier et qui nous rappelle que les enfants d'Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte avant de partir. Et ce pain-là, à travers son goût, nous rappelle à la fois la misère et la liberté. Nous rappelle que le levain peut représenter l'orgueil et que lorsque nous nettoyons nos maisons avant la fête de Pâques, lorsque nous enlevons le levain de la maison, eh bien c'est l'orgueil que nous devons éradiquer de nous-mêmes, dans un effort constant d'aller vers l'essentiel, d'aller vers ce pain de la liberté et ce pain azim. Et le dernier symbole que je voudrais évoquer, il y en a beaucoup d'autres, c'est la mezouza. La mezouza, c'est cette petite boîte que nous mettons sur les poteaux de la maison et sur les portes, que vous avez dû voir sans doute des fois, et qui contient un parchemin. Et dans ce parchemin, il y a le texte du Shema, Écoute Israël, que je vous ai cité tout à l'heure. Alors pourquoi ? Pourquoi à l'entrée de notre maison, nous mettons un parchemin ? Eh bien, les sages nous disent, d'abord, cet endroit, le seuil, est un endroit très particulier. C'est la frontière entre le domaine public et le domaine privé. Et si l'on rappelle par le texte l'importance de la loi à ce moment-là, c'est que ce petite boîte, lorsque nous la voyons en entrant dans nos maisons et en sortant vers l'extérieur, cette petite boîte vient nous rappeler que la loi doit être la même à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut se croire protégé des murs de sa maison pour se comporter mal à l'intérieur, et on sait combien de personnes se comportent bien en public et mal en privé. Et à l'inverse, on peut penser que à l'intérieur de sa maison, il faut bien se comporter avec les siens, avec des personnes proches, et qu'à l'extérieur, ça n'a plus d'importance. Et la loi vient nous rappeler encore une fois que nous devons nous comporter de manière éthique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un des sens de la mezouza. Et aussi, pour revenir à mon tout premier point, mettre un bout de parchemin sur lequel il y a une écriture à l'entrée de nos portes, cela signifie aussi que dans la maison où ce parchemin se trouve, eh bien le livre, l'écriture et l'étude sont importants. Alors, pour conclure, je voudrais vous lire une histoire à nouveau. Une histoire qui est racontée par Edmond Flegg, qui était un écrivain français, qui vivait pas très loin d'ici d'ailleurs, sur l'île Saint-Louis, et qui a pensé la transmission comme quelque chose de très important. Il a dédié ses livres à ses petits-enfants qu'il n'avait pas encore eu, et malheureusement qu'il n'aura pas, puisque ses deux fils sont morts pendant la guerre. Et il a décidé, et c'est un petit clin d'œil au scout, il a décidé de créer le mouvement de scouts juifs israélites, à l'époque on disait, en France, en se disant, eh bien, je n'ai pas d'enfant à qui transmettre, et il est important de créer un mouvement de scouts juifs pour que cette transmission soit faite, même pour ces enfants qui n'ont pas de parents ou qui n'ont pas eu la transmission de l'identité juive. Dans un de ses livres qui s'appelle Moïse raconté par les sages, où il mélange le texte biblique avec les récits talmudiques, il raconte ainsi un midrash, donc une parabole, au moment où les enfants d'Israël, on les appelle d'ailleurs les enfants d'Israël, mais ce sont des adultes, parce qu'on lit dans chaque adulte la conscience d'un enfant. Au moment où les Hébreux reçoivent la Torah, c'est-à-dire la première partie de, pour vous, l'Ancien Testament, de la Bible, sur le mont Sinaï, eh bien, Dieu demande aux enfants d'Israël, aux Hébreux, un garant. Il dit, je suis prêt à vous donner ce cadeau, qui est la Torah, mais il faut des garants que vous n'allez pas mettre ce cadeau de côté et ne rien en faire. Alors je vous lis la suite. Les Hébreux dirent, nous la voulons, cette Torah. Ce qu'elle ordonne, nous l'accomplirons. Mais reprit Moïse, quels seront devant l'Éternel les garants de votre promesse? Que nos anciens soient nos garants, dirent les Hébreux. Vos anciens vont mourir. Comment seraient-ils vos garants? Que nos patriarches soient nos garants. Vos patriarches sont morts, comment seraient-ils vos garants? Que nos prophètes soient nos garants. Vos prophètes ne sont pas nés, comment seraient-ils vos garants? Alors les femmes d'Israël dirent aux prophètes, que nos enfants soient leurs garants. Dieu t'enseignera la Torah, tu les enseigneras aux parents. Ils l'enseigneront aux enfants et les enfants à leurs enfants. Et les enfants de leurs enfants à leurs enfants. Et Moïse demanda aux enfants, « Serez-vous les garants de vos parents devant l'Éternel ?» Ils répondirent, « Nous le serons. » Alors tous les Hébreux crièrent, « Nos enfants sont nos garants. Tout ce que ordonnera l'Éternel, nous le ferons et nous l'écouterons. Mais que lui-même nous montre sa face, qu'il nous parle par sa voix. »
Merci bien, Pauline Beb, pour cette transmission des grandes traditions juives, mais il y a encore certainement beaucoup de choses à dire. Mais dans tous les cas, merci, et puis je pense que nous saurons tirer de ce que vous avez dit des tas d'enseignements et d'éclairages pour qu'à notre tour, nous puissions lire l'ancienne Alliance en tirant profit, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez éclairées ainsi. Vous reviendrez quand vous voudrez, hein? Il n'y a pas de problème, ce sera toujours avec vraiment beaucoup de joie. Alors, je salue nos amis, les éclaireurs qui sont présents à ma gauche et qui vont venir tout de suite vous parler, vous dire un mot, parce qu'ils vont vous vendre des gâteaux à la sortie, comme quoi les sens sont toujours à l'honneur, et que cette vente de gâteaux n'est pas neutre, hein, je veux dire, évidemment, il y a un but qui est là, mais c'est à eux de l'annoncer, parce qu'ils sauront mieux vous le dire que moi. Alors, il faut venir là au micro, nous raconter, puis qu'on vous voit un petit peu aussi. Voilà. Ça marche?
Bonjour à tous. Alors, sur votre droite, en sortant, nous vous proposons des gâteaux, gâteaux sucrés et salés pour accompagner l'apéritif qui sera à votre gauche. Alors, pour vas-y, arrête.
Bonjour, voilà, donc cette vente de gâteaux va nous servir à récolter de l'argent essentiel au bon déroulement de l'année pour acheter du matériel nécessaire au camp d'été que nous organisons chaque été, donc à la fin de l'année, voilà. Un gâteau avant l'apéro, bon appétit.
À tout de suite, quoi. Voilà, donc vous avez bien compris que vous pourrez prendre des gâteaux en sortant et aller au pot d'accueil après sans problème. Donc n'oubliez pas, partez pas tout de suite comme ça si vous voulez rencontrer Pauline Beb ou vous rencontrer les uns avec les autres, prenez votre temps, voilà. La semaine qui vient est relativement calme pour vous, pour les paroissiens. Vous avez samedi matin le groupe Art et Spiritualité hein, qui se réunit. Et puis dimanche prochain, nous avons notre troisième conférence qui sera dite, présidée par Anne-Laure Danet, hein, qui est pasteur d'Église réformée de France, qui a été à la tête de la catéchèse et qui, si je ne me trompe, à l'heure actuelle, est aux missions. Nos catéchumènes, les miens, les vieux, entre guillemets, auront vendredi soir une séance de catéchisme particulièrement pénible, puisque je leur demande de venir vers 19h, ici pour les conduire après sur une vedette de Paris Tour Eiffel, on ira faire un tour sur la Seine et après quoi on ira au restaurant. Des séances de catéchisme qui sont plus difficiles que d'autres, mais enfin bon, j'espère qu'ils supporteront cette petite veillée sans trop souffrir. Enfin voilà. Ça fait partie de la catéchèse hein, que de vivre en groupe et d'être heureux ensemble. L'Église, c'est un lieu agréable, quoi. Je veux dire, hein, c'est un lieu où on partage des choses qui sont essentielles. On l'a vu tout au long de cette matinée. Et je crois que, bon, si on veut qu'ils soient, ces jeunes soient ensemble, se retrouvent entre eux, soient heureux dans cette paroisse, dans cette Église, et voilà, et bien, je crois qu'il faut y faire la fête, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie de l'enseignement et de la transmission aussi, hein, d'une certaine manière. Voilà, mais ça ne les empêchera pas de venir au caté dimanche matin. Je précise, à 9h du matin. Ça, c'est moins drôle. Enfin, alors, je rappelle que mercredi 8 à 20h30, nous continuons l'étude de la Genèse. Nous en sommes au deuxième jour. Voilà, donc vous pouvez venir, même si vous n'avez pas été là lors du premier jour. On fera quand même une petite reprise pour que vous puissiez raccrocher sans trop de problèmes. Voilà. Je rappelle aussi, entre autres, hein, que le vendredi 10, nous avons, non pardon, le samedi 11, pardon, nous avons à 10h30 le groupe Évangile et Liberté, et que nous nous pencherons sur le cahier d'Évangile et Liberté qui porte sur la gourmandise. Ouais, on est très axé sur la nourriture, hein, quand même. C'est une coïncidence, hein, tout simplement. C'est le dernier cahier d'Évangile et Liberté, c'est comme cela, voilà. Voilà. Et la veille au soir, le vendredi, il y a les JMJ, ces jeunes ménages et jeunes, ou jeunes et moins jeunes, c'est comme vous voulez. Donc, il se réunira le vendredi 10. Et puis, le dimanche 12, c'est Bernard Cotteret qui viendra clôturer ce cycle de conférences sur la transmission. Et nous finirons par un repas. Prière de s'y inscrire. Valérie, debout, qu'on te voit bien, c'est elle qui reçoit vos inscriptions pour le repas et vos aides éventuelles, etc. Enfin bref, elle vous dira tout si vous venez à elle. Alors, il y a un cahier, parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu en face, il y a un cahier sur une des tables à la sortie, sur lequel vous pourrez vous inscrire, etc. Enfin bref, voilà. Essayez de le faire, parce que bon, on sait très bien que le nombre d'inscrits ne correspond jamais au nombre de présents, mais on a l'habitude de ça. Donc, on sait que s'il y a 3 inscrits, il y a 10 présents, je veux dire. Donc, mais ça nous donne quand même une indication. Vous voyez, hein? Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, alors, si par hasard vous n'êtes pas inscrit, que ça vous dit de venir, vous voyez, on prévoit. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Vous pourrez venir même sans être inscrit. C'est effectif que vous êtes invité, comme il se doit. Voilà. On fera attention, on ne mettra pas de porc. Voilà. D'autres annonces, non? Oui.
Pour la plupart des paroissiens, je pense que vous connaissez France Koenig, qui est une de nos doyennes, que j'ai amenée ce matin en voiture. Je le fais de temps en temps quand je peux le faire. Dimanche prochain, je serai à l'orgue, donc je ne pourrai pas le faire. Le 12 février, la dernière conférence, je ne serai pas là non plus. Et pour les dimanches où je ne suis pas disponible, je pense que dans la paroisse, moi j'ai une voiture depuis seulement 14 ans, je pense que pratiquement tout le monde a une voiture. Donc ben, si vous pouviez vous faire connaître pour éventuellement, à l'occasion, véhiculer notre ami France et peut-être d'autres anciens qui auraient envie de venir et qui se déplacent difficilement ou qui ne peuvent pas se déplacer du tout.
Merci bien pour cette annonce. On va rester un petit peu dans la diaconie. Je vous rappelle que dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Que donc, nous avons ce qu'on appelle les paniers, hein, qui ne sont plus les paniers du CASM, mais qui sont les paniers pour la mission évangélique auprès des sans-logis. Et que donc, on ramasse ce que vous apporterez, que ce soit des boîtes de petits pois, des savons, je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, tout ce dont on a besoin pour vivre. Et que c'est très, très bien reçu par la mission. Je vous rappelle aussi que dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois, et donc à 5h30, si vous voulez finir le week-end par une cantate ou deux de Bach, eh bien, vous pouvez venir. Faites attention, si vous voulez être bien placé, d'arriver un petit peu en avance. Voilà. Hein. Si vous voulez être vraiment en face, vraiment sur ma droite, là, si vous arrivez à 5h30, vous n'aurez pas de place. Donc, il vaut mieux arriver plutôt vers 5h15. Ça marche, là? Comme vous avez l'air bien, vous êtes tout à fait en condition pour entendre la dernière annonce, qui est l'annonce de l'offrande. Et à laquelle je vous invite à participer, et dans la joie et dans l'espérance, évidemment, sachant que tout ce que nous récoltons, nous le mettons au service de la parole. Et pendant ce temps d'offrande, je vous invite à prendre vos psautiers au psaume 107. Le psaume 107, les strophes 1, 2, 3, 4. vous invite à prolonger ce psaume par la prière. Père, notre Père, nous avons chanté la liberté et l'amour, l'essentiel que tu offres au monde, que tu nous confies, que nous avons à transmettre à toutes celles et tous ceux que nous rencontrons, et à toutes celles et tous ceux auxquels nous pensons aussi. Père, nous te remettrons des situations, des personnes, des gens dans la joie et d'autres dans la peine, afin que tu bénisses et que tu les gardes, toutes et tous, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance, leur lieu de vie. Et puis aujourd'hui, tout particulièrement, nous te prions pour l'unité autour de ta personne. Et en particulier, nous pensons aux frères et sœurs du judaïsme. Bénis-les tout particulièrement, Seigneur, parce qu'ils nous ont transmis l'essentiel à travers l'Alliance au fil des siècles. Père, notre Père, nous te prions aussi pour ton Église, pour qu'elle soit fidèle à sa parole, à ta parole, qu'elle soit fidèle au message de Jésus, à son enseignement, aux gestes qu'il a pu avoir vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui se sentaient exclus ou maudits. Et cela aussi, nous voudrions te les remettre, ceux qui sont de par les rues ou enfermés chez eux, honteux d'être dans des situations impossibles, ceux qui crient sans voix, ceux qui voudraient tendre la main mais qui ne peuvent pas le faire, tant et tant de situations désespérées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Restez dans la joie de notre rencontre de ce matin. Restez dans cette richesse que vous avez acquise, mais que vous saurez, j'espère, transmettre aussi à toutes celles et tous ceux que vous rencontrerez. Et puis, sachez que vous êtes les témoins d'une espérance qui nous dépasse infiniment, d'un enseignement qui est d'une richesse incroyable. Allez, allez en paix, allez dans le monde, allez sur des routes toujours nouvelles, ces routes qui sont inscrites dans l'Écriture depuis si longtemps. Allez sur ces routes parce que le Seigneur est là et qu'il vous guide et qu'il vous appelle par vos noms, vers des avenirs inconnus, vers des aventures toujours renouvelées. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous. Allez en paix, à maintenant et à jamais. Amen. Et puis nous prenons le dernier chant spontané qui est page, je vous dis tout de suite, 7.